Bonsoir. Des vacances à l'ombre du Covid-19. Le gouvernement annonce une date pour la mise en place du pass sanitaire élargi. Ce sera le 9 août. L'état d'urgence est rétabli en Guadeloupe. Les hôpitaux craignent que la quatrième vague ne se transforme en tsunami. Après les vacances, la rentrée des classes se fera aussi avec le mot coronavirus écrit en gros sur le tableau. Dans les collèges et les lycées, les élèves non vaccinés devront suivre les cours à distance s'il y a un cas positif dans leur classe. La France appelle le président tunisien a nommé rapidement un Premier ministre. Aujourd'hui, les habitants sont davantage préoccupés par la crise économique que par la crise politique. Nous irons à Tunis. Dans ce journal, l'arrestation de deux suspects après le braquage d'une bijouterie à Paris. L'un pourrait être le cambrioleur à la trottinette. La campagne présidentielle de Valérie Pécresse à Nice. Et un retour canon du cycliste slovène Primoz Roglic aux Jeux Olympiques de Tokyo. À 19h15 sur France Inter, le téléphone sonne. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Ce soir, vous esquissez la mode du monde d'après.
Des soldes d'été décevants pour les commerçants, mais un énorme bénéfice pour le groupe LVMH, maison mère de Louis Vuitton, Dior ou Céline. Message contradictoire cette semaine. Dans le monde d'après, à quoi vont ressembler nos dressings? A-t-on changé nos tenues, nos habitudes d'achat et comment exactement? On en parle à 19h20. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
A tout à l'heure dans 20 minutes.
France Inter.
Dans une dizaine de jours, on ne pourra plus faire l'impasse sur le pass sanitaire. Le gouvernement a arrêté une date pour son extension, ce sera le 9 août. Si toutefois le Conseil constitutionnel valide la loi, il doit trancher le 5. À partir du 9, donc, il faudra présenter une vaccination complète ou un test négatif pour aller au restaurant, dans les cafés, prendre les transports longue distance ou encore se rendre dans les foires et les salons. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a annoncé cet après-midi lors de son compte-rendu du Conseil des ministres. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
C'était le dernier Conseil des ministres avant les vacances, mais on a bien senti que le gouvernement n'avait pas l'intention de prendre congé de mesures sanitaires strictes.
Oui, on ne va pas regarder la quatrième vague depuis la plage. C'est le refrain du jour au gouvernement. Une trêve qui n'en est pas une, dit le porte-parole. Gabriel Attal dresse un sombre constat.
Plus encore que les précédentes, la quatrième vague frappe tout le territoire. Le taux d'incidence augmente fortement partout.
Aucune région épargnée. Et si le ton est grave, c'est une fois de plus pour appeler à la vaccination.
La semaine dernière encore, il y avait 5 millions de personnes à risque du fait d'une maladie ou du fait de leur âge qui n'étaient pas encore vaccinées. C'est beaucoup et c'est une situation qui est à la fois dangereuse pour ces personnes, évidemment, mais aussi une épée de Damoclès au-dessus de notre hôpital.
Une quatrième vague à l'hôpital en plein mois d'août, c'est la principale crainte du gouvernement. Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu dans 2 semaines. Et d'ici là, le pass sanitaire sera partout, ou presque.
Le 9 août, c'est donc à cette date que le pass sanitaire élargi entrera en vigueur avec, je le rappelle, un temps d'adaptation, de tolérance, de pédagogie, d'accompagnement pour les acteurs concernés. J'avais parlé d'une période de rodage d'une semaine.
Une semaine sans sanction et des ministres appelés à se montrer dans les gares, dans les cafés pour insister sur l'accompagnement du dispositif. Fin août, le monde touristique et culturel dressera un premier bilan au gouvernement avec peut-être de nouvelles compensations à la clé.
Maxence Lambrecq du service politique de France Inter. Autre annonce du gouvernement aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire est de nouveau en vigueur à partir d'aujourd'hui dans 3 territoires et départements d'outre-mer, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Concrètement, cela permet au préfet de prendre des mesures de restriction comme le couvre-feu ou un reconfinement local. L'épidémie flambe, 1700 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe et seuls 15% de la population est vaccinée. Face à cette quatrième vague qui grossit de jour en jour, il faut absolument préserver les capacités hospitalières selon Gérard Coutelon, directeur général du CHU de Guadeloupe.
Cette quatrième vague, elle s'annonce très très forte. Hein. Le taux d'incidence pour 100 000 habitants a été multiplié par 3 en une semaine. Et ça se traduit au niveau des urgences Covid. Maintenant, une quinzaine de passages en moyenne. Et sur les 15 passages, vous avez un peu plus de la moitié qu'il faut hospitaliser. Et sur cette petite moitié, la moitié doit aller dans des lits de réanimation. Donc, la crise, elle est là. Depuis hier, en cellule de crise, nous avons demandé à l'ensemble des services de déprogrammer tous les soins non urgents. La Martinique est très fortement touchée, donc la solidarité entre îles ne peut pas jouer. Et donc, il faut trouver de la place pour hospitaliser les patients. Donc, je suis en train de recruter massivement des infirmières pour faire face à cette quatrième vague.
Les adolescents à partir de 12 ans peuvent recevoir le vaccin Moderna. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert. L'Éducation nationale a quant à elle dévoilé les grandes orientations de la rentrée. Dans les collèges et les lycées, s'il y a un cas de Covid-19 dans une classe, seuls les élèves vaccinés pourront rester. Tous les autres devront suivre les cours à la maison. 6 à 7000 centres de vaccination seront déployés dans les établissements scolaires ou à côté. Vous retrouvez l'ensemble des mesures annoncées par Jean-Michel Blanquer sur franceinter.fr. Certains opposants à ces mesures n'hésitent pas à manifester leur mécontentement avec des symboles très violents. Dans le Var, un homme est convoqué demain au commissariat de Toulon après avoir réalisé et collé des affiches représentant Emmanuel Macron sous les traits d'Adolf Hitler. Information France Bleu Provence de Christelle Marquès.
Faire rarissime dans ce type de dossier, le président de la République a en effet chargé un cabinet d'avocats parisien de déposer plainte dans cette affaire, mais nous ne ferons pas de commentaires, répond le service de presse de l'Élysée. Il y a quelques jours, sur son profil Facebook, Michel-Ange Fleury se disait serein, à tel point serein qu'il a même autorisé un garagiste jurassien à reprendre sa fameuse affiche. Joint par téléphone, l'avocat de l'afficheur indique que son client souhaite s'expliquer. En effet, il va donc bien se rendre au commissariat de police. Maître Didier Ollet qui précise néanmoins que ça n'est jamais plaisant d'être convoqué par la police. On n'est jamais tranquille, poursuit-il. Cette affiche, c'est excessif et c'est le principe de la caricature, mais ça n'est pas injurieux, plaide-t-il en faveur de son client. Un argument déjà avancé en 2019 dans une procédure en référé engagée par BFM. L'afficheur avait été condamné à 32 000 euros d'amende pour atteinte au droit d'une marque.
Les laboratoires qui commercialisent les vaccins voient leur chiffre d'affaires s'envoler. Pfizer prévoit d'écouler cette année pour 33 milliards de dollars de doses. La Grande-Bretagne assouplit ses conditions d'entrée sur son territoire. À partir de lundi, les voyageurs complètement vaccinés arrivant de l'Union européenne et des États-Unis ne seront plus tenus de respecter un isolement de 10 jours. La justice française condamne définitivement le fils du président de Guinée équatoriale dans l'affaire des biens mal acquis. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Théodorin Obiang cet après-midi. L'an dernier, la Cour d'appel de Paris l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et surtout à la saisie de ses biens en France, un patrimoine luxueux acquis en détournant des fonds d'un montant de 150 millions d'euros. Ils seront vendus et restitués à la population de Guinée équatoriale. Le téléphone a sonné entre la France et la Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé aujourd'hui son homologue tunisien pour demander la nomination rapide d'un premier ministre. Le président Kais Saied a en effet limogé le chef du gouvernement, suspendu les travaux du Parlement pour un mois, mettant sur la touche le parti majoritaire Ennahda. Quelques jours après ce coup de force et les affrontements qui ont suivi, le calme est revenu à Tunis. Et ce qui préoccupe le plus les habitants, c'est la crise économique. Reportage dans la Médina de Marie-Pierre Véraud.
Les affaires ne tournent pas très fort dans le souk de Tunis. Cela fait des années que l'on se serre la ceinture. Mais là, la crise économique, la pandémie...
Actuellement, vide. Ces endettés, vide.
Nasreddine se débrouille au jour le jour. Peu d'amateurs pour ces flacons de parfum.
On a 2 ans, 50%, la moitié.
Chiffre d'affaires divisé par 2, Mustapha attend lui de trouver preneur pour ses magnifiques djellabas. Mais il reprend espoir après des années de marasme politique.
Moi je suis heureux, 10 ans que la merde, toujours blablabla, blablabla. 10 ans, ils n'ont rien fait. Beaucoup de pauvres, beaucoup de... Et lui, il a parlé 2 mots, ça y est, la Tunisie, alhamdoulilah. 2 mots, il a dit, tac, tac, tac. On a vu ça sur la télévision.
Si tous les commerçants partagent le triste constat d'une économie en berne, le coup de force du président inquiète les plus anciens, comme Reda, le vendeur de cuir.
Même s'il y a un génie, le président, il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'on a fait un grand pas dans le chemin de la démocratie, si vous voulez, il y a des partis, c'est l'espoir, c'est le rêve des générations et des générations. Là, il exagère un peu.
Mais le véritable responsable, ajoute-t-il, c'est Ennahda. Ils ont fait trop d'erreurs, ils ont trop volé le peuple. À écouter les commerçants de la Médina, le parti islamo-conservateur a perdu beaucoup de terrain dans le cœur des Tunisiens. Tunis, Benjamin Thuot, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Le Maroc porte plainte en diffamation contre Radio France, l'un des médias à avoir révélé l'affaire Pegasus. Le royaume est accusé d'avoir utilisé ce logiciel pour espionner des centaines de téléphones portables en France, des politiques, de militants et de journalistes. Dans un communiqué, la direction de Radio France rappelle que sa cellule investigation bénéficie d'une solide éthique professionnelle. Voilà qui pourrait inspirer la saison 3 d'Arsène Lupin, mais il faudrait un dénouement un peu moins rapide. Après le braquage de la bijouterie Chaumet à Paris hier, 2 suspects ont été arrêtés à bord d'un autocar sur l'autoroute A4 en Moselle. Jusqu'ici, le crime avait été presque parfait. Le braqueur élégamment habillé s'était fait remettre entre 2 et 3 millions d'euros de bijoux et de pierres précieuses sans tirer un coup de feu avant de prendre la fuite à trottinette.
France Inter. Cécile Bideau.
Elle revêt enfin le costume de candidate à l'élection présidentielle sur le terrain. Valérie Pécresse était dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, de Nice à la frontière italienne. La présidente de la région Île-de-France, candidate à la primaire de la droite, s'est affichée aux côtés du député LR Éric Ciotti. Un premier déplacement sur le thème de l'immigration, car c'est de ce côté-là que Valérie Pécresse doit combler son déficit pour séduire les électeurs de droite. Envoyée spéciale à Nice pour France Inter, Claire Flochel.
La visite a commencé au service des mineurs non accompagnée à Nice, puis à la police des frontières, à Menton, enfin au poste de Saint-Ludovic, à la frontière avec l'Italie, là où je me trouve actuellement. Ancienne ministre de l'enseignement supérieur, on n'attendait pas forcément Valérie Pécresse sur le thème de l'immigration. Voilà sa réponse.
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons le droit, avec tous les impôts que nous payons, à avoir des services publics qui nous permettent de faire respecter les lois. Et faire respecter les lois, c'est statuer très rapidement sur les demandes d'asile. C'est vérifier que quelqu'un qui se dit mineur, avoir moins de 18 ans, a bien moins de 18 ans. Je veux dire, c'est le béaba. Et ça, on doit y mettre le paquet.
La campagne est bien lancée. La candidate déclarée à l'élection présidentielle est venue peaufiner son projet.
Ce que je suis venue chercher ici, c'est la compétence des élus des Alpes-Maritimes sur tous ces sujets de sécurité, d'immigration, ces sujets de justice qui sont au cœur de mon projet. Et évidemment, Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesi, avec l'expérience qui est la leur, sont évidemment des soutiens très puissants pour porter un projet d'alternance.
Valérie Pécresse est en effet accompagnée d'Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, et de Charles-Ange Ginesi, président du département. On notera en revanche l'absence de Christian Estrosi, officiellement en déplacement à Paris pour parler à la télévision de l'entrée de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'épidémie de coronavirus a tendance à prendre tout l'espace sanitaire et médiatique, laissant peu de place à d'autres maladies graves. C'est par exemple aujourd'hui la journée mondiale contre l'hépatite, ou plutôt des hépatites, car elle porte les lettres de A à E. En France, 230 000 personnes sont porteuses de l'hépatite C, une infection mortelle qui provoque cirrhose et cancer du foie. La France s'est fixée pour objectif de l'éradiquer d'ici à 2025, mais le dépistage marque le pas en ce moment. Alice Cachaner.
Pour soigner l'hépatite C, pas de vaccin, mais des traitements antiviraux efficaces à condition que la maladie soit détectée à temps. Un dépistage d'autant plus important que 75 000 Français ignorent être porteurs de ce virus. Une prévention passée au second plan avec la crise Covid, regrette Pascal Mélin, médecin et président de l'association SOS Hépatite.
On est devenu monomaniaque du Covid et du coup, le dépistage de l'hépatite C, ça s'est effondré. On avait des chiffres, les laboratoires nous disaient combien de tests d'hépatite C étaient faits par mois et on a vu une diminution de plus de 50% des tests de dépistage.
Outre le dépistage, la qualité du suivi des patients s'est détériorée pendant la crise Covid. Certains malades ont aggravé leur cirrhose ou découvert un cancer du foie.
Moi, j'ai perdu la semaine dernière un de mes patients. Il devait juste avoir une échographie de surveillance tous les 6 mois pour vérifier qu'il n'y ait pas un cancer du foie qui arrive. Parce qu'une cirrhose, elle peut se cancériser n'importe quand. Mais là, pendant un an et demi, la surveillance n'a pas été faite correctement. Et quand il revient et qu'on refait l'échographie, on tombe sur une tumeur qui est inopérable. Et il est mort la semaine dernière.
Avant la crise Covid, l'éradication de l'hépatite C en 2025 semblait ambitieuse. C'est désormais un objectif quasi mission impossible, estime le médecin.
L'équipe de France de football n'a même pas fait illusion lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Gignac, Thauvin et leurs coéquipiers rentrent à la maison éliminés cet après-midi par le pays hôte. Le Japon corrige la France 4-0. Cela fait 11 buts encaissés en 3 matchs de groupe. Une mésaventure olympique à oublier. Les basketteurs français en revanche assurent leur place en quart de finale après leur victoire sur la République tchèque. Idem pour les handballeurs qui s'imposent face à l'Allemagne. La France totalise ce soir 8 médailles, dont 3 en or. Une médaille d'or à 40 km/h. Le cycliste slovène Primož Roglič a survolé le contre-la-montre aujourd'hui. Il boucle le parcours avec une minute d'avance sur son premier poursuivant, le néerlandais Tom Dumoulin. Les officiels ont même dû agiter leur drapeau pour qu'il s'arrête. Il continuait de foncer tête baissée. Roglič tient enfin sa revanche après ses échecs sur le Tour de France et ses chutes à répétition. Fanny Lechevestrier.
Souvenez-vous de l'avant-dernier jour du Tour de France 2020. Casque à l'envers, hébété, Roglic perd le maillot jaune lors de l'ultime contre-la-montre après avoir dominé toute la course. Cette année, c'est d'entrée qu'il avait vu ses rêves de victoire brisés par une lourde chute en Bretagne et on l'avait quitté il y a un mois, le corps enrubanné de pansements au point qu'il s'était lui-même baptisé la momie. Alors ce titre de champion olympique à 31 ans, c'est forcément une belle revanche sur le sort. Je n'étais pas sûr de participer aux Jeux il y a encore 6 jours. Je ne pouvais pas tenir sur mon vélo. C'est un rêve d'enfant, les Jeux. Alors oui, je suis super fier et heureux de ce que j'ai réussi à faire. Roglic, porté en triomphe par les membres de son équipe, félicité comme rarement par ses adversaires, à l'image du Français Rémi Cavagna, tous soulignent sa force mentale, sa capacité de résilience.
Je l'ai vu hier, on finit l'entraînement avec lui et je lui disais « ça va, Primoz ?» Et il me dit « ouais, je suis un peu cassé encore, mais c'est super pour lui, tomber autour. » C'est un super mec, il n'a pas eu de chance ces derniers temps, il est toujours un peu dans les chutes, tout ça. Et voilà, c'est un gars qui peut gagner partout. Voilà, c'est un champion.
Primoz Roglic, ou l'orgueil du champion qui entre dans l'histoire en devenant le premier Slovène champion olympique. Pas mal pour un cycliste souvent qualifié d'emprunté.
Rémi Cavagna, qu'on vient d'entendre, se classe 17e de ce contre-la-montre.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Sébastien Léas, vous nous annoncez un temps calme et enfin du soleil pour demain?
Oui Cécile, la journée de demain sera sans doute la plus ensoleillée de la semaine au niveau national. Cette petite parenthèse concernera tout le monde, ou presque. Sur le bassin aquitain et sur le centre-est, l'arrivée du soleil sera quand même parfois retardée par des nuages matinaux. Des ondées vont aussi se propager des Landes au massif central et aux Alpes du Nord au fil de la journée. Sur le relief, ces ondées pourront tourner à l'orage, notamment en soirée sur la Savoie et la Haute-Savoie. Les éclaircies deviendront en revanche de plus en plus timides entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France à cause de l'arrivée d'une perturbation. Quelques ondées seront possibles sur le nord-ouest demain après-midi, les nuages débordant même vers l'Île-de-France en deuxième partie d'après-midi et sur le Finistère, le temps deviendra pluvieux. En fin de journée, une autre perturbation va se mettre en place sur le sud-ouest apportant des pluies et des orages sur les régions du sud durant la nuit. Pour les températures, prévoyez 21 à 26 degrés sur la moitié nord, 24 à 32 degrés plus au sud, mais 28 à 36 degrés entre la basse vallée du Rhône, la Provence et la Corse.
Sébastien Léas de Météo France.